Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, le dialogue des religions, Idrissa Seydou Dia sera en direct avec vous pour la suite de vos réactions à la canonisation le 27 avril dernier des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. En République démocratique du Congo, 6 soldats de l'armée nationale ont trouvé la mort aujourd'hui dans le Nord Kivu, dans des affrontements avec les rebelles de l'APCLS. L'information a été confirmée par le porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Félix Prosper Bass. Par ailleurs, la MONUSCO a indiqué que la traque des rebelles ougandais du groupe ADF Nalu se poursuit dans l'est de la RDC. Les autorités de Kinshasa avaient annoncé le 14 avril la prise de la dernière base de ce mouvement dans la province du Nord Kivu. En République centrafricaine, calme précaire au centre de Bangui après une nouvelle tension hier dans une partie des 5e et 3e arrondissements. Plusieurs quartiers proches de PK5 ont été secoués mardi soir par des tirs à l'arme automatique. Selon certaines sources, au moins une dizaine de personnes ont été tuées et plusieurs blessées. On fait le point avec Félix Yepassis Zembrou.
La tension était vive toute la journée dans ces quartiers qui ont été le théâtre d'affrontements à l'arme automatique une bonne partie de la nuit. De nombreuses familles ont abandonné leur domicile par crainte d'une nouvelle violente flambée. Dans les quartiers Bazanga, Fondo et Sara, des habitants font état d'une dizaine de civils tués et de nombreux blessés. Ils accusent des groupes de musulmans armés d'avoir mené des représailles suite au lynchage d'un jeune musulman au quartier Fatima par des individus assimilés aux anti-Balaka. De son côté, le porte-parole des musulmans de PK5, Ousmane Abakar, a reconnu le mouvement de colère des jeunes sans confirmer le nombre des personnes tuées. Des blindés de l'opération Sangaris ont multiplié les patrouilles au PK5 et un hélicoptère de combat survolait le secteur. Ailleurs, à l'intérieur du pays, le convoi des musulmans de PK13 est finalement arrivé hier matin à Kabo. 287 déplacés sont restés sur place, pendant que le reste, 1113 déplacés musulmans, seront transférés à Sido, à la frontière tchadienne.
Merci Félix. Violente manifestation de collégiens et lycéens à Niamey, la capitale du Niger. Des centaines d'élèves étaient dans la rue pour réclamer de meilleures conditions d'études. Ils auraient jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogènes. Ce qui s'est passé, écoutons sur ce qui s'est passé, écoutons Anassa Gibrella, le président de l'Union des scolaires nigériens à Niamey.
Bon, ce qui s'est passé aujourd'hui entre les élèves et les forces de l'ordre est lié à l'arrestation de 9 de leurs camarades au niveau du lycée Issa Corombé. Une arrestation qui fait suite à la sortie de ce lycée pour faire des revendications liées aux ventilations, aux ampoules et autres questions. C'était la semaine passée. À la suite de cette manifestation, il y a eu des casses, un véhicule qui était brûlé et des motos. La police judiciaire a dû mettre la main sur les premiers responsables de cette école. C'est relativement à cette arrestation que les lycéens et collégiens de la ville de Niamey ont exigé la libération de ceux qui étaient détenus à la police judiciaire. Aujourd'hui, dans les environs de 13h, 14h, on les a libérés.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé en Afrique pour des rencontres visant notamment à mettre un terme à la violence au Soudan du Sud et en République centrafricaine. John Kerry est arrivé aujourd'hui soir dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Et puis, les Irakiens ont bravé la menace de la violence pour se rendre aux urnes aujourd'hui. Il s'agissait des premières élections générales du pays depuis le départ des troupes américaines en 2011. Nathalie Barge.
Quelques 20 millions d'électeurs irakiens doivent choisir 328 députés sur plus de 9000 candidats, un scrutin sous haute surveillance policière, tandis que les véhicules ont été interdits de circuler dans Bagdad. Malgré les mesures de sécurité, des bureaux de vote et des électeurs ont été la cible d'attentats dans le nord et l'ouest de l'Irak. Des attaques qui ont fait au moins 11 morts. Exerçant son devoir de citoyen dans la capitale, le Premier ministre Nouri al-Maliki a appelé les Irakiens à se rendre massivement aux urnes. Je ne veux pas que les citoyens ratent leur droit de participer à l'élection. J'espère voir un grand nombre de participants. Si Dieu le veut, nous célébrerons le succès des élections et la défaite du terrorisme et de ceux qui pariaient sur le report du scrutin, a dit le Premier ministre. Le vote a été boycotté par les insurgés sunnites. Les factions anti-Maliki l'accusent de monopoliser le pouvoir et d'accentuer les dissensions dans le pays.
Sans transition, place au dialogue des religions avec Idrissa Seydou Dia.
Foi et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous et à toutes. Au micro, Idrissa Seydou Dia. Dans le dialogue des religions de ce mercredi 30 avril 2014, la suite de vos réactions à la canonisation, le 27 avril, des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Pour certains analystes, cette double canonisation s'inscrit dans le cadre des efforts du pape François en vue de réconcilier les libéraux et les conservateurs de l'Église catholique. Qu'en pensez-vous ? Quels sont les défis auxquels fait face l'Église catholique aujourd'hui? Avant de vous céder la parole et pour commencer, nous allons revenir sur la cérémonie du 27 avril avec notre confrère de la Radio du Vatican à Rome, le journaliste Albert Miancuzuta. Albert, vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien, oui.
Merci encore une fois d'avoir accepté d'être parmi nous. Alors, parlez-nous de la cérémonie du 27 avril, comment elle s'est passée?
Alors, il s'est passé de la manière la plus, j'allais dire, la plus joyeuse, la plus festive possible, mais aussi la plus recueillie. Plus de 2 millions de personnes, selon les estimations, donc dans le périmètre immédiat de la place Saint-Pierre, sans compter ceux qui, dans les places adjacentes, ont suivi cette cérémonie très priante, des gens qui sont venus de partout. Le pape qui a fait un discours, on appelle cela une homélie, un sermon assez concis, assez bref, mais dans lequel sont ressortis, je crois, les traits principaux que l'Église catholique est appelée à retenir, donc aussi bien du pape Jean XXIII que du pape Paul VI. Pour l'un, c'était la docilité face à l'Esprit Saint, pour l'autre, c'était le sens de la préoccupation des familles, du bien-être spirituel des familles. Donc l'un et l'autre sont désormais saints et l'Église catholique, les fidèles, ont, je crois, dans une très écrasante majorité, applaudi à cette décision de porter vers la sainteté deux figures illustres donc de ce parcours historique d'une Église catholique qui n'a pas toujours eu le consensus de tous.
Merci Albert. Avant la cérémonie, j'avais lu quelque part que des musulmans, des anglicans, des orthodoxes, peu de protestants, hostiles au culte catholique des saints, seront là aux côtés d'une forte représentation juive venue manifester sa reconnaissance à ces deux papes qui ont lutté contre les préjugés anti-juifs dans l'Église. Est-ce que ça a été le cas ?
Ça a été le cas. Il y a eu effectivement une forte représentation anglicane. Il y a eu des membres du rabbinat donc israéliens qui sont venus. En plus du fait que d'Argentine est arrivée aussi une poignée de représentants juifs, parce que vous savez que le pape actuel, le pape François, a eu un parcours très remarquable aussi dans ce qui est du dialogue avec le peuple juif du temps où il était cardinal de Buenos Aires en Argentine. Donc il y a eu les anglicans, il y a eu un message fort notamment du peuple juif, disons en tant que tel, en tant que représentation, disant que pour ce qui est par exemple du pape Jean XXIII et du pape Jean-Paul II, l'Église catholique ne pouvait pas faire choix meilleur, disons, pour parler unanimement, pour parler de la même manière, avec la même force aux deux peuples, aux deux communautés de croyants. Le pape Jean XXIII, pour avoir, essayé, commencé d'effacer un tout petit peu ce qui restait dans l'Église catholique de réminiscence d'un passé où le peuple juif était considéré comme déicide, coupable d'avoir tué le Fils de Dieu. Et puis le pape Jean-Paul II, pour alors là, être parti comme une bourrasque dans une avancée telle que le dialogue est devenu à la fin du pontificat de Jean-Paul II, le dialogue avec les Juifs, quelque chose, j'allais dire, de presque normal, alors que ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, que Jean-Paul II arrive à dire l'Église catholique doit considérer les Juifs comme leurs frères aînés, leurs sœurs aînées dans la foi. C'était une chose assez remarquable.
Albert, maintenant, je vais vous livrer au lion,
oui,
parce que certaines
oui
ne sont pas
du... Pas de problème, je suis préparé.
Alors donc, les auditeurs et leurs questions.
Oui.
Allez-y, Josel, de l'autre côté de la vitre.
Prions pour Dieu, oui. J'appelle d'habitants en Côte d'Ivoire. Moi, ma préoccupation, c'est au niveau des prêtres. Je me dis, mais un homme n'est pas saint. Pourquoi est-ce qu'on doit vraiment canoniser ces deux prêtres quand on sait que l'homme en lui-même n'est pas parfait?
Albert, vous avez entendu la question?
J'ai entendu la question, mais déjà elle part d'un malentendu, d'une mauvaise compréhension de la chose. Ceux qu'on canonise qui deviennent saints, ce ne sont pas des hommes parfaits. Loin de là, ça n'est pas cela. On les donne en modèle de sainteté, en modèle de foi. C'est-à-dire que l'homme, dans toutes les limites qui sont reconnues et qui sont celles qui relèvent de toute créature humaine, toute créature de chair, dans ces limites, eh bien, il y a ceux qui se sont efforcés de suivre la voie de Jésus-Christ, d'obéir à une foi qui, pour eux, représente l'essentiel. Ils n'y sont pas toujours parvenus. Ce ne sont pas des gens qui ont toujours été des angéliques. Certains se sont fâchés, d'autres piquaient des colères. Il y en a qui buvaient, peut-être certainement aussi. Mais toutes ces limites-là ne font pas d'eux des gens qui sont supérieurement mauvais par rapport à la bonté, j'allais dire, vers laquelle ils étaient attirés par la sainteté de leur démarche de foi. C'est cela. Maintenant, qu'un prêtre, Jésus-Christ était lui aussi un homme, hein, vous le savez, c'était un homme, mais il n'empêche qu'il était aussi le Fils de Dieu, et donc dans cette double nature, eh bien, chacun de nous chemine aussi dans la tentation d'être... pas seulement de se contenter de toutes les limites vers lesquelles nous pourrions, au fond, devant lesquelles nous pourrions abdiquer en disant « je ne peux pas », mais toujours en faire plus, toujours en faire mieux, et c'est cela la sainteté. Ce n'est pas être parfait à 100%, c'est essayer de suivre Jésus-Christ.
Voilà, alors un auditeur en direct. Alors, présentez-vous.
Ils sont devenus d'esprit. Pourquoi? Un homme, est-ce que c'est un homme qui doit au moins donner la sainteté? Il doit dire que le ciel est saint au moment où ce n'est pas Dieu. Je ne sais pas si on va me répondre à cette question, madame.
Mais bien entendu qu'on peut vous répondre. Il n'y a pas de problème. Quand on dit le ciel, c'est-à-dire que vous êtes, encore une fois, vous êtes en train d'insinuer que ceux qu'on a proclamés comme étant des saints sont ipso facto des gens qui s'assoient à la droite du Père. Non, c'est d'abord aussi un jugement d'humain. L'Église est composée d'hommes qui évaluent par rapport à toutes les difficultés, par rapport au contexte, par rapport à la démarche, par rapport à l'obéissance que chacun des baptisés doit à la fois aux obligations qui découlent de son baptême, ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire. C'est cela qui est jugé et c'est cela que l'on propose en passant par un fait qui n'est pas uniquement humain, c'est le miracle, le ou les miracles que une personne proposée en canonisation doit accomplir. Donc c'est cela. Mais maintenant, si vous attendez que ce soit Dieu lui-même qui descende du ciel, comme vous dites, avec une tablette de la loi disant, voilà, André, Pierre, Josué ou X ou Y sont ceux-là que j'admets aujourd'hui, eh bien, nous en serons là encore dans 3000 ans. Nous sommes une communauté d'humains. L'Église est une communauté d'hommes et de femmes vivant dans la foi. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils essaient de faire de bien dans cette démarche-là devient, quantifiable, évaluable par les humains qui restent. Donc, pape, cardinaux ou évêques, en tout cas l'Église de Jésus-Christ sur terre.
Un autre auditeur.
Junior Merveille Pananzila, à partir de la République démocratique du Congo, dans la province du Kassai Oriental, vis-à-vis de Kassai Oriental. Et ma question est la suivante. Pourquoi le pape François a décidé de canoniser les deux papes? Je ne sais pas. Il a conscientisé d'abord l'Église catholique, ou soit il a fait ça avec son comité papal, là, je ne sais pas. On peut nous répondre par ça. Et je peux dire, c'est que lui a peine de faire là, bon, ça contribue quand même pour l'Église catholique, mais et ça aide encore les chrétiens catholiques. Mais ce que je peux encore ajouter, c'est qu'il y a d'abord les critères pour être canonisé. Est-ce que nos deux papes sont canonisés là? Ils ont respecté les règles pour être canonisés. Ils avaient leurs défauts quand ils étaient vivants, mais quand ils sont canonisés, est-ce que c'est-il vrai? C'est ça mes préoccupations.
Albert, voilà. Je vous le
Alors,
disais
c'est
bien.
C'est une décision souveraine.
Allez-y, Albert.
Qui a décidé que, effectivement, deux papes pouvaient être canonisés le même jour. Donc, le pape Jean XXIII et le pape Jean-Paul II. Ça, c'est une décision souveraine. C'est pas vous avez parlé d'un comité. Je ne sais pas si vous faites allusion au conseil des cardinaux qu'il s'est créé, les 8 cardinaux qui sont ses conseillers et qu'il consulte pour toutes les décisions importantes de l'Église dans la voie de réforme où il est engagé. Mais je pense pas que ces cardinaux-là aient eu leur mot à dire là-dessus. C'est une décision souveraine du pape. D'ailleurs, au moment où le pape a annoncé cette canonisation, cette double canonisation, la commission n'était pas encore créée. Donc, c'est une décision du pape. Maintenant, est-ce que le faisant, il a obéi à des critères bien précis? Bien entendu, le pape n'est pas venu là pour faire uniquement sa volonté. L'Église catholique a 2000 ans d'histoire, et donc dans toutes les décisions qui se prennent, aussi bien en liturgie, aussi bien en règlement, aussi bien en droit de l'Église, le droit canonique, eh bien tout cela repose, obéit, se vérifie d'abord par rapport à ce qui s'est fait avant, et donc il n'a pas, j'allais dire, innové dans l'absolu. Il a sans doute créé une nouveauté en canonisant deux personnes, deux papes le même jour, mais puisqu'ils devaient être canonisés de toutes les façons, l'un et l'autre, s'ils répondaient aux critères, eh bien que cela se fasse, en un jour, que cela se fasse en des dates différées, étalées, ça ne fait plus tellement d'importance. Quant à les canoniser tels quels, eh bien entendu, cette décision n'a été appliquée que lorsque tous les critères ont été remplis. Alors pour le pape Jean XXIII, on a dit que le miracle n'a pas été constaté ou avéré, etc. Mais il y a une disposition aussi de la disposition de l'Église qui est une partie de la disposition de l'Église qui établit désormais que même sans miracle, on peut canoniser, on peut béatifier quelqu'un parce que la piété populaire fait foi. Enfin, c'est pas une manière de jouer avec les mots, mais lorsque un peuple, une communauté, une nation est convaincue de la sainteté d'un baptisé, eh bien, à sa mort, cela peut déjà être pris comme première étape pour aller vers la décision, j'allais dire, ultime, qui est la canonisation. Donc, je ne vous fais pas l'injure de rappeler que pour Jean-Paul II, déjà sur son cercueil, on avait crié « Santo subito » et qu'en quelque sorte, cette canonisation est venue simplement régulariser une piété populaire, mais il y a eu aussi des miracles. Donc, dans tous les cas, tous les critères ont été analysés et respectés.
Bon, maintenant, Alphonse qui nous appelle. Alphonse, vous nous appelez d'où?
Oui.
Allez-y, Alphonse.
Ma question est celle-ci. Quand j'ai lu la Bible, la Bible dit que je salue les saints de l'église de l'Éphèse. Je salue les saints de l'église de Rome. Je salue les saints de l'église de Corinthe. Donc, les saints, ici, dans la Bible, c'est-à-dire, ce sont des êtres vivants, se sont convertis en Jésus-Christ, et on les appelle les saints. Ils ne sont pas parfaits, mais c'est, on les voit parfaits à partir de Jésus-Christ. Mais je ne comprends pas comment on canonise les gens qui sont morts. Je ne sais pas si votre invité peut me répondre. Est-ce que c'est du livre qu'on canonise les gens qui sont morts?
Laissez Albert répondre à la question. Albert, vous avez entendu la question?
Oui, j'ai entendu. Rappelons que d'un point de vue de la logique, j'allais dire, de foi chrétienne, tous les baptisés sont appelés à la sainteté, tous, absolument. Mais raisonnons un tout petit peu. Je ne pense pas qu'un jour, et comme je disais, avec les limites qu'un humain est en droit aussi d'exprimer ou de vivre ou de subir, qu'on puisse décider qu'un jour, à 50 ans, telle personne est sainte et si à 55 ans, la sainteté qu'on lui a trouvée à 50 n'est plus vérifiable par les mêmes critères, qu'est-ce qu'on fait? On désanctifie? Ça ne se fait pas. Donc, cette étape de la mortalité, c'est une manière, en quelque sorte, de passer aussi un regard exhaustif, patient et finalement un regard de recul sur tout ce que le baptisé a accompli durant sa vie terrestre, et ça ne peut être que cela. On fait le bilan de cette vie et on en déduit que telle personne, homme ou femme, peut être citée en exemple de sainteté, un modèle de chrétienté, et donc on le canonise. Voilà, c'est cela. On ne célèbre pas des morts, on célèbre la vie de ceux qui ont été baptisés et se sont proposés, se sont conduits à l'intérieur de l'Église comme des modèles.
Voilà, alors un autre auditeur.
Edlon Makassi, depuis Goma, en RD Congo. Ma question est celle-ci. Pourquoi ne pas opter pour le dialogue sincère pour que les deux parties soient vraiment réconciliées? Merci beaucoup.
Vous avez compris? Oui.
Là, par contre, je n'ai pas bien compris. Pour que les deux parties ou les deux papes, je n'ai pas bien saisi.
Oui, en fait, ce qu'il veut dire, puisque on a dit que la canonisation de deux papes si différents était une façon de réconcilier libéraux et conservateurs au sein de l'Église catholique. Alors, il se demande si, en réalité, on ne devrait pas plutôt opter pour ou privilégier le dialogue entre les deux tendances, si je puis dire, plutôt que de passer à la canonisation.
Oui. Alors là, la question me fait un peu rire, mais je crois que ça n'est pas moi qui suis vraiment bien placé pour y répondre, parce que libéraux, conservateurs, progressistes, etc., ça, ce sont des terminologies qui n'ont pas tellement cours. C'est des terminologies qui viennent des observateurs, j'allais dire, extérieurs à l'Église. Mais au sein de l'Église, cette double canonisation n'a jamais visé une réconciliation quelconque. C'est l'analyse des journalistes que nous sommes. Mais ça n'est pas la motivation première de l'Église. Première chose, je dis que cela me fait sourire parce que